La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
Bonjour, bonjour, on est lundi 18 mars, c'est la midinale de Radio Piquet. On est au taquet aujourd'hui, un petit peu fatigué par notre loto, mais ça va aller, ça va être une midinale historique.
Bonjour.
Donc je suis Kat, je suis en compagnie de Charline, de Canel, de Nico et de Thomas.
Salut.
Alors Canel, c'est Nico qui t'a rencontré il y a quelques jours à la marche pour le climat.
Oui, pas c'est ça, chance. Vendredi dernier.
Il n'y a pas eu de chance.
Qu'est-ce que tu faisais là-bas ?
Alors, c'est dans le cadre de le Youth for Climate. Les jeunes du monde entier font la grève tous les vendredis et font des actions pour l'environnement et une manifestation. Et donc, nous, sur Brest, on a des actions comme Plastic Attack, qui consiste à récupérer les emballages plastiques à la sortie des supermarchés, des courses des personnes, et de les remplacer par des sacs en papier afin de dénoncer, justement, l'utilisation du plastique dans la démesure. On a aussi des clean walk qui consistent à marcher dans la rue et à ramasser tous les déchets.
D'accord.
Après, on a des débats avec un sitting et il y a des manifestations. Donc, il y en a eu une vendredi dernier qui a vraiment rassemblé beaucoup de gens.
Ouais.
Et samedi dernier aussi, à l'Andivisio, notamment pour lutter contre la centrale à gaz.
Ok.
Et alors, ça vient de commencer ce mouvement ou ça fait déjà quelques semaines ?
Ça a commencé vraiment en août 2018 avec une jeune suédoise qui a commencé à faire la grève toute seule et à se rendre devant le Parlement suédois pour dénoncer l'inaction climatique. Et ensuite, ça a été repris en Belgique par une jeune qui a dit qu'elle voulait amplifier le mouvement et donc du coup, elle a commencé à lancer ça en Belgique. Et maintenant, dans le monde entier, il y a tout le vendredi, les jeunes se mobilisent et lutte pour le climat.
Et à Brest, c'était le premier ?
Oui, c'est ça. Et ça va continuer les prochains vendredis.
Ah, moi, j'ai été impressionnée par les photos, en fait. Il y avait l'air d'avoir vraiment du monde.
Oui, ça a mobilisé vraiment beaucoup de jeunes. Et c'est vraiment bien, parce que c'est du collège à lycée, universitaire et même après.
Ouais. Et est-ce que les profs vous soutiennent
Donc, moi, je suis plus à la fac, donc je sais pas trop. Mais d'une manière générale, oui, tout le monde est pour... lutter contre le réchauffement climatique, et je pense que c'est important aussi que... c'est facile de faire grève quand on travaille, mais quand on est jeune à l'école, c'est pas toujours évident de faire porter sa voix, surtout quand on vote pas. Et du coup, c'est une manière aussi de montrer son soutien, et manquer l'école pour ça, c'est un symbole fort.
Et alors, est-ce que tu t'étais engagée avant, dans quoi que ce soit ?
Oui, alors moi j'ai fait des études en relations internationales et droit humanitaire, donc je suis déjà partie dans des missions, notamment pour les réfugiés en Grèce, en Italie, mais aussi au Liban et en Inde, donc je suis déjà engagée à la base.
Okay.
Et le climat, c'est aussi un thème qui est très important.
Bah, oui. Moi en fait, j'avais envie d'inviter Canel et puis d'autres à parler de ce thème-là, parce que ouais, c'est essentiel. Y a un terme que tu as employé, c'est « démesure ».
Oui.
La démesure là de notre monde capitaliste qui
surconsommation
qui utilise les ressources après moi le déluge en gros hein, c'est ça
ouais.
Pour symboliser le système on peut dire ça en fait c'est le problème du réchauffement climatique ça fait depuis 92 peut-être le sommet de Rio le premier grand
c'est
sommet international où là, la communauté internationale se réveille et commence à faire des sommets. Bon, on se réunit, là. Concrètement,
C'est un peu ça le problème, justement, c'est qu'il y a beaucoup de sommets, beaucoup de documents qui sont édités, beaucoup de débats, mais pas assez d'actions. Le secrétaire général de l'ONU a d'ailleurs fait un rapport dans lequel il dit que l'État n'investisse pas assez de moyens pour mettre en place les accords de Paris qui ont été signés en 2015. Il y a aussi des objectifs du développement qui ont été mis en place jusqu'en 2030, mais ce n'est pas du tout suffisant. Les États ne respectent pas ce qu'ils ont promis. Et de toute façon, les promesses sont déjà à la base inadéquates et pas à la hauteur des défis.
Ouais. Et alors moi, j'avais une idée derrière la tête, parce que c'est un thème dont j'aimerais qu'on approfondisse à Radio Piquesse. Et du coup, je ne sais pas si toi, Canel, ou avec d'autres, est-ce que ça vous intéresserait de participer à une émission sur ce thème ?
Oui, bien sûr.
Monter quelque chose ?
Oui, bien sûr. Voilà. C'est un thème sur lequel je pense que c'est important de s'engager, et de débattre et de sensibiliser les gens aussi. Et...
qu'on prenne le temps de faire une émission consacrée à ça.
Ou plusieurs, ouais. Parce que c'est un gros morceau quand même.
Oui,
mmh. Oui, tout à fait.
Mmh. Voilà. Vraiment. Bah ouais, pourquoi pas.
On prendra le temps, hein, on en discutera.
Ça peut proposer des émissions en direct, comme ça, personne ne peut refuser, tout le monde dit oui.
Et ouais, c'est une bonne technique. Hein.
En plus, je vous prêchais une convaincue, donc...
Bon. Du coup, le prochain rassemblement, c'est
vendredi prochain. Ouais, donc il y a un groupe Facebook qui s'appelle Youth for Climate Brest.
Okay.
Et il y a un site internet aussi, donc rejoignez-nous, allez voir ce qui se passe. Donc il y aura de toute façon des actions et une manifestation aussi.
Il y a un truc qui m'a étonné aussi sur les photos, c'était de voir les panneaux. Mm-hmm. En fait, il y a énormément de gens avec des panneaux super propres, super bien faits. Tu sais, j'ai l'habitude des manifs où il n'y en a pas énormément et où c'est quand même assez cracra. Et ça m'a donné presque l'impression que ça avait été préparé en classe.
Oui, bah, y a eu une séance où il y a eu préparation de panneaux, de pancartes, tout ça.
Mais organisé par qui, du coup
Par le groupe de Youth for Climate sur Brest.
D'accord. Ouais, c'est...
Donc les jeunes se sont mobilisés, se sont réunis pour discuter aussi des slogans et des pancartes à faire.
Ok. Bien, bien. Et vous êtes en lien avec d'autres groupes en France et ailleurs ?
Alors pas forcément en lien direct, mais de toute façon on suit l'actualité de tout ce qui se passe dans les autres groupes, dans toutes les villes en France et dans le monde, parce qu'il y a même en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, tout ça. Donc oui, forcément on suit l'actualité de ce qui se passe dans les autres pays et ça donne des idées aussi... Parce qu'en France, c'est arrivé plus tard que dans d'autres pays, donc forcément, on s'inspire aussi des actions qui sont menées ailleurs.
Très bien.
Ok.
Bon,
On
en recausera prochainement.
Bon, Thomas, alors, pour cette revue de presse, tu nous avais...
Ouais, moi, j'ai trouvé deux articles qui m'ont fait rire et un peu peur. Que j'ai trouvé dans Canard PC, du coup. Hein, donc, sur la publicité, le premier, c'est l'amour avec des pubs autour. Prêtez attention aux pubs que vous voyez sur Internet. Si vous commencez à ne voir que des injonctions à booster votre libido morne et triste, c'est peut-être le signe que votre compagnon ou votre compagne tente subtilement de vous influencer. En fait, la société The Spinner, une start-up américaine spécialisée dans le marketing, propose à ses utilisateurs de cibler leur moitié grâce à des campagnes de publicité censées influencer le comportement de l'être aimé. Si vous voulez par exemple que votre conjoint vous demande en mariage, la société se chargera d'envoyer régulièrement des articles du type « 5 bonnes raisons de demander sa copine en mariage ». Moi je trouvais ça hyper fort. En fait, et du coup j'étais en train d'imaginer que s'il y avait ça sur les comptes de Piquesse quand on se mettait à la pub et tout, mais franchement ça serait un truc de dingue quoi. T'écoutes ta radio Piquesse tranquillement et là t'as des trucs qui te viennent en tête là pour est-ce que ça vous a déjà dit tromper votre femme, un truc comme ça, enfin, c'est hyper flippant. Donc quand on commence à faire déjà de la publicité ciblée, ça commence, mais alors que quelqu'un puisse dire bah tiens, je paye tant pour que cette personne-là reçoive tel type de publicité, moi ça me fait un peu flipper. Ouais, et deuxième article, j'ai pensé à la snob en fait, vous comprendrez peut-être après.
Bonjour la snob.
Oui, bonjour la snob. Google qui peaufine une nouvelle version de Google Maps pour smartphone, avec comme point d'orgue l'intégration de la réalité augmentée pour piétons. Un journaliste du Wall Street a eu le privilège d'essayer la technologie, expliquant en préambule à quel point il pouvait être difficile de s'orienter avec le seul point bleu du GPS. Ça, vraiment pas avoir le sens d'orientation pour ça, mais bon. Qu'à cela ne tienne, il suffira bientôt de filmer les lieux aux alentours avec la caméra du téléphone pour que l'IA de Google trifouille illico dans les bases de données, le Street View et corrèle la position et l'orientation exacte. Donc après, du coup, on vous dit où vous êtes exactement, et après le téléphone, quand vous filmez, vous dira, en fait, indiquera des flèches pour vous dire bah, c'est par là qu'il faut aller. Et en fait, ça va quand même poser encore des problématiques de vie privée, de voilà, reconnaissance faciale et tout. Et en fait, moi, je pensais à la snob qui nous envoie censément des photos du Mékong, alors qu'en fait, on sait tous que c'était
au bord de la Loire.
Voilà. Et donc là, grâce à Google, on saura On pourra prouver ça. Voilà.
Merci. Moi, je voulais vous parler aussi de la réforme des temps périscolaires. En tant que parent d'élève, j'ai reçu un courrier datant du 1er mars 2019 m'informant donc que à la rentrée de septembre 2019, il y allait avoir un changement dans les temps, dans l'organisation des temps scolaires. Donc je rappelle juste, c'est en 2013, il y avait une réforme des temps périscolaires mis en place donc, par l'État. Donc les communes étaient dans l'obligation de mettre en place après des temps périscolaires. Donc ça voulait dire qu'en fait, on était à 4 jours d'école, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc en 2013, on récupérait le mercredi matin comme jour d'école. Et pour quelque part combler les heures, on ajoutait des temps périscolaires en fin de journée. Donc après, les communes étaient libres d'organiser comme elles voulaient les temps périscolaires. Alors chacun a fait des choix différents. Il y a certaines communes qui ont décidé que les temps périscolaires, c'était tout le vendredi après-midi. Il y en a d'autres qui ont mis une demi-heure en fin de journée, le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et la ville de Brest, elle avait décidé que c'était sur 2 jours, 2 fois 1h30. Pas tout à fait 1h30, 2 fois 1h20, je crois. Et donc soit suivant les écoles, le lundi et le jeudi, ou le mardi et le vendredi. Voilà. Alors, les changements qui sont donnés dans ce courrier-là, en fait, c'est que, donc, il reste sur la semaine à 5 jours, toujours école le mercredi matin. Et par contre, il n'y a plus les temps périscolaires, au lieu d'être en fin de journée, sur 2 jours, sont étalés, en fait, sur les 4 jours, lundi, mardi, jeudi et vendredi, sur le temps de la pause méridienne, de 13h30 à 14h15. Donc ça fait 45 minutes de temps périscolaire. Donc appelé TAP, temps d'activité périscolaire. Et donc, en fait, c'est pas des changements hyper... Enfin, c'est pas hyper radical, en fait, comme changement. Et finalement, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, sincèrement, en fait, pour ce qui se passe en maternelle, par exemple, c'est plutôt pas mal comme réforme, je trouve. C'est parce qu'en fait, en maternelle, effectivement, le fait de changer un peu tous les jours, que les enfants sachent pas trop quel jour on est, etc. Et puis aussi, ça évite ce qui se passe dans certaines écoles où ils sont réveillés pour aller au TAP actuellement. Et donc là, en fait, on les laisse faire la sieste et puis ne pas participer au TAP. Bon. Le problème, en fait, c'est que il y a pas mal de problèmes pour les gens, en fait, qui sont impliqués dans l'étape aujourd'hui. Vas-y.
Alors moi, justement, je fais des remplacements dans les écoles sur l'étape et le midi.
Vas-y.
Et je suis personnellement pas pour cette réforme.
Vas-y.
Parce que déjà, en maternelle, ça va justement se résumer à de la sieste. Et l'après-midi, là maintenant, c'était regroupé sur 2 après-midi. Donc il n'y avait pas forcément assez de moyens pour avoir des intervenants hyper qualifiés pour faire toujours de super activités. Ça dépend des écoles et des groupes. Mais surtout là, regroupé sur le midi 2, il y a des enfants qui rentrent chez eux, donc du coup qui ne vont pas pouvoir revenir pour faire l'étape. Les enfants vont être fatigués. Le midi, c'est le seul moment où ils peuvent faire un peu du temps libre, ce qu'ils veulent. Là, ils vont avoir une activité imposée et les rendre après au professeur pour faire quelque chose de scolaire après avoir eu 3 quarts d'heure de... jeux de société, je trouve pas que ce soit une super idée. Et on nous a dit que c'était pour pas des questions financières, mais après, quand il a été proposé de passer à d'autres projets qui avaient été soumis, justement, on a dit qu'il y avait un problème de financement.
Carrément. Parce que clairement, en fait, déjà d'une, en fait, ça fait des économies pour la ville de Brest par rapport à actuellement. Parce qu'en fait, comme les temps périscolaires, il y avait déjà... la pause méridienne, donc le temps de cantine, il y avait déjà des animateurs qui étaient payés sur ce temps-là. Donc en fait, ils augmentent d'un quart d'heure par jour, ce qui fait 1 heure par semaine, en fait. Et avant, en fait, c'était 2h40. Donc il y a 1h40 par semaine par animateur en moins payé pour la ville de Brest. C'est énorme.
Oui.
C'est énorme en termes d'économie.
C'est ça, concrètement. Il y a moins de temps d'animation, donc moins d'animateurs et animatrices qui perdent une partie de leurs revenus.
C'est ça.
Ce qui fait une économie pour la ville.
Voilà. Donc du coup, concrètement, en fait, les animateurs, pour les raisons que tu as données, qui sont des raisons de qualité, d'intervention,
oui, c'est pour les enfants, en premier lieu.
Sont plutôt contre la réforme, mais aussi pour des conditions de travail, parce qu'ils vont perdre du temps de travail avec cette mesure. Moi, ce que j'ai trouvé, en fait, ce qui est un peu compliqué, c'est que là, tout le monde se mobilise tout à coup pour ça, enfin contre ça en fait, mais que les uns et les autres ont pas les mêmes réclament pas la même chose. Donc les animateurs vont être plutôt sur réclamer que ça reste comme c'est actuellement.
Pas forcément, ça peut aussi être regroupé sur une après-midi. Pour les enfants, ce serait déjà beaucoup plus bénéfique et plus intéressant d'avoir quelque chose de qualité pour les enfants plutôt que.
Ça peut être aussi cette revendication-là. Et les profs, en fait. Globalement, c'est plutôt en fait que dès le début, ça les a emmerdés, cette réforme, parce que en fait, c'est le mercredi matin qui les emmerde pour une partie. Je ne dis pas tous les profs non plus, parce que c'est pareil, il y a plein de diversité là-dedans. Mais en fait, globalement, c'est plutôt en soi les temps périscolaires qui les emmerdent et le fait d'avoir 4 jours et demi. En fait, il y a beaucoup qui aimeraient bien revenir aux 4 jours. Et parmi les parents, c'est pareil, il y a certains qui voudraient revenir aux 4 jours, d'autres pas, d'autres qui tiennent aux tables, d'autres qui... Donc en fait, c'est un petit peu un petit merdier à démêler. Mais moi, ce que je regrette, c'est que dans le fond, il n'y a pas de vraie évaluation de qu'est-ce que c'est que ces tables.
C'est ça le problème.
Qu'est-ce que c'est que ces temps d'activités périscolaires? Qu'est-ce que ça crée pour les enfants? On entend seulement des gens dire « Ah oui, ils sont fatigués, les enfants !» Mais ils sont fatigués, on entendait déjà ça. Avant 2013, les enfants, ils étaient déjà fatigués. Et comment t'évalues ce discours marronnier, tu vois, de « les enfants sont fatigués » Ben, c'est impossible, en fait. On nous dit « ils sont toujours fatigués » ou « ils sont encore plus fatigués ». Il n'y a rien qui permet de vérifier ça en vrai, quoi.
Mais après, il n'y a pas que la fatigue, il y a surtout la qualité de ce qui est apporté. Il y a des écoles où ils font vraiment des choses vraiment bien, des projets avec des associations pour handicapés, où ils intègrent les enfants avec des personnes handicapées dans une association, ils ont des super projets. Et après, il y a des tables où c'est jeux de société ou du dessin, qui n'est pas forcément avec des gens qui sont qualifiés en dessin, donc du coup, c'est un peu... Bon, les enfants ont aussi besoin de s'amuser et de faire des choses comme ça, mais...
Mais c'est vrai que c'était mal parti, parce que dès le début, en fait, moi je trouve que c'est une réforme qui a été faite hyper rapidement, qui a été mise en place un peu trop, beaucoup trop vite, et que c'est vrai que c'était vendu comme étant, comme ça, les enfants qui ont pas la possibilité d'avoir accès à des loisirs, tester du judo, du foot ou des activités culturelles un peu plus poussées. L'étape était vendue pour remplacer ça, enfin de pouvoir avoir accès à la facilité de faire ce genre d'activité. Finalement, on se rend compte que suivant les communes et les écoles, c'est pas forcément possible parce que en termes de moyens humains, de matériel et tout, déjà il y avait ça qui ils avaient pas vraiment aussi. J'ai pas l'impression qu'ils avaient budgétisé le truc, quoi. On partait avec rien pour faire un truc qui devait être énorme, quoi. Donc ça non plus, ça n'a pas été évalué, quoi.
Nous, en fait, Thomas et moi, on a travaillé donc au patronage Laïc Guérin, qui a signé en 2013 une convention avec la ville de Brest pour les temps périscolaires, justement. Donc on était sur l'école Guérin et Bugeaud, école primaire et maternelle du quartier Saint-Martin. Et en fait, dès le départ, quand on est arrivé on s'est dit, en fait, le point de vue du PL Guérin, c'était de se dire, faire entrer l'éducation populaire dans l'école, c'est quelque chose de chouette. Et on a envie de participer à ça, on a envie de permettre que l'école s'ouvre aussi sur autre chose et que donc on avait l'envie aussi de bouger avec les enfants, par exemple. On a fait on restait pas avec tout le groupe dans l'école, on pouvait aller à la médiathèque, on peut faire des choses, etc. Mais en fait, ce qui est vraiment très très difficile quand on arrive dans une école, c'est tout. Tout est fermé, tout est très 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 compliqué. On a l'impression en fait d'arriver en terre on est des étrangers qui arrivons dans une école qui a son mode de fonctionnement et on est des ennemis. Donc, et je dis ça sans stigmatiser l'école Guérin et l'école Bugeaud en particulier, parce que c'est ce que j'ai vu partout, dans le sens où on était aussi dans les réunions du projet éducatif local. Il y a plein de réunions qui réunissent des parents, des instits, etc. Et ben, les premiers trucs qu'on fait quand on se retrouve pour organiser les temps périscolaires, les premières demandes des profs, c'est le règlement de l'école. Donc déjà, c'est de nous dire, c'est comme, et en fait, c'est pas, on va faire un règlement ensemble pour avoir les mêmes règles. C'est nous, c'est ça nos règles, et vous allez les appliquer comme nous on le fait. Donc déjà, on n'a pas le droit, on n'est pas libre d'organiser ces temps-là comme on souhaiterait le faire. Après, il y a vraiment, moi je trouve que quand on rentre comme ça dans l'école, on se rend compte de tout un mode de fonctionnement. Donc les conseils d'école, qui sont un simulacre de démocratie, où en fait c'est les profs qui ont le pouvoir puisqu'ils sont plus nombreux en fait, tout simplement. Il y a 3 élus dans l'école, au conseil d'école, qui n'ont aucune voix au chapitre et qui sont généralement plus les parents qui sont plutôt soucieux de leurs enfants et voilà. Et en fait nous en tant qu'animateurs, et ben il y a un représentant, c'est tout, de sur un conseil d'école, donc notre voix elle est unique et ben on est vraiment mis en minorité très très vite. On est aussi vu très, dès qu'il y a du bordel dans l'école, c'est qui les coupables? C'est les animateurs. C'est toujours, oui, nous qui avons mal rangé la salle, etc. Et ça amène... Et c'est vraiment très compliqué, parce que je trouve qu'en plus, il y a aussi... on a l'impression d'être l'ennemi de tout le monde en arrivant, et qu'on doit se faire tout petit tout le temps. Parce que même, en fait, par exemple, les femmes de ménage, ça se surajoutait sur un temps où normalement elle devait avant, elle pouvait s'organiser pour nettoyer à ce moment-là. Et ben là, d'un coup, on est des gros crassous, en fait, qui venons la faire chier sur des heures de ménage. Alors qu'en fait, ben, voilà, et tu te sens presque en train de t'excuser tout le temps, en fait. Tu sens bien que l'école, c'est hyper difficile, en fait, d'entrer là-dedans, quoi. Et après, il y a aussi d'autres difficultés qui sont liées au fait que en maternelle, on a imposé à des ATSEM de faire de l'animation, du coup. Ils se sont retrouvés, de fait, obligatoirement dans l'équipe d'animation. Et en fait, ben, nombre d'entre elles, parce que c'est majoritairement des femmes, ne le souhaitaient pas, en fait. Et ça, c'est hyper compliqué aussi de demander à quelqu'un qui a signé pour un métier... Et d'en faire un autre, de lui imposer ça. Et en plus, c'est assez compliqué aussi quand t'es une asso qui arrive, parce que t'es censé, donc le Pelle Guérin était censé être coordinateur du projet des temps périscolaires, mais n'a aussi, doit faire avec des salariés de la mairie qui ont qui se retrouvent, les ATSEM, à avoir 3 chefs au final, une fois la maîtresse avec qui elle est en classe et pour qui elle travaille, la mairie qui est son employeur en vrai et qui est responsable d'elle, et l'association, du coup, en l'occurrence la PL Guérin, qui est responsable d'elle sur les temps périscolaires. Et il y a un écartèlement comme ça, parce qu'on leur demande pas du tout la même chose en plus, quoi. C'est complètement contradictoire et c'est hyper, hyper difficile, en fait, ce travail. Et les animateurs et les ATSEM se confrontent souvent, parce que les visions de l'animation sont pas du tout les mêmes. On est sur des choses très très différentes, donc avec souvent, enfin, le truc un peu cliché, ça va être l'autoritarisme, l'ordre donné par les ATSEM, et puis le côté laxisme des animateurs, c'est souvent ce qu'on nous reproche, n'est-ce pas, Thomas?
Oui, c'est ça.
Voilà, et en tout cas, je trouve que... Ben, dans ce qui est proposé par la ville de Brest, ben ça, en fait, en tout cas, c'est pas du tout pris en compte. Et puis, ben, ce que tu disais, la qualité de ce qu'on propose aux enfants, tout
oui,
simplement.
C'est ça le problème.
Mais par contre, ce courrier, en fait, on va en recevoir un autre d'ici peu de temps, parce que justement, il y a un tel rejet que ça y est, la ville de Brest a annoncé qu'ils renonçaient à ce projet et que mais ils doivent pour le 30 mars avoir trouvé autre chose.
Ouais, parce qu'il y a un mouvement de grève.
C'est
ça. Il y a eu une grève la semaine dernière.
Donc jeudi, il y avait beaucoup d'écoles qui ont été fermées, beaucoup d'écoles publiques qui étaient fermées. Et c'est aussi un truc que moi, enfin, ça m'agace un peu de voir. Je comprends que quand ça touche à tes conditions de travail aussi, donc tu peux que tu fasses grève, que tu sois contre, etc. Mais je trouve dur de voir que en fait les écoles publiques, elles se mettent en grève là de manière forte, quoi, et que on les a peu entendus, peu vus dans toutes les autres manifestations qu'il y a eu, et notamment pour gueuler contre la privatisation de l'école d'une manière générale.
Là, demain, il y a une autre grève contre la loi Blanquer.
Ouais, mais je t'assure, ça ne mobilise pas du tout de la même manière. C'est vraiment, enfin, pour l'école, elle ferme pas, par exemple, habituellement toute l'année. Il y a eu que jeudi dernier, vraiment, où les écoles en masse, et c'était vraiment la réforme des temps périscolaires, quoi. Que je trouve des fois, enfin, que il y a une focalisation hyper forte, et il y a d'autres enjeux qui me semblent être délaissés aussi. Voilà. Et en tout cas, il y a une vidéo qui tourne où on voit, donc, que j'ai vue sur le Facebook du patronage Les Guérins. Donc ils sont allés à une réunion la semaine dernière ou la semaine, enfin, où Émilie Cuchel, donc, qui est adjointe à l'éducation, présentait donc la réforme. Et c'était impressionnant de voir comment c'est le gros bordel en fait pendant cette réunion. Et les arguments qui sont sortis par les profs contre sont des arguments qui sont nuls, quoi. Enfin, qui sont pas les qui reposent des questions qui sont des vrais problèmes de l'école, mais qui n'ont rien à voir avec les temps périscolaires, quoi. Et donc ça fait un bougli-bouga, là. Et en fait, Émilie Cuchel, elle cristallise là pas mal de rage. Mais aussi parce qu'en fait, c'est une ancienne directrice du centre social de Kérourien et qu'elle est considérée comme étant du camp de l'animation. Et donc, on voit vraiment là un truc assez fort et moi qui m'a rappelé des très mauvais souvenirs de réunions comme ça où je me sentais très isolée à défendre ce qu'on voulait faire et l'éducation populaire dans l'école, quoi. J'avais isolé un tout petit bout, mais je sais pas. Bon, on entend un peu l'ambiance de cette réunion-là. Mmh. Et justement, Émilie Cuchel, elle va... Enfin, voilà.
C'était quand, cette réunion ?
C'était, je pense, il y a une semaine. Peut-être 10 jours, grand max. Mais ça va passer très vite et ça va être un gros brouhaha parce que les gens parlent beaucoup, mais on va écouter vite fait pour donner une ambiance... Une notion de...
Malgré ce que les enseignants en croient qu'on dit, l'important c'est quand même l'école. L'État, c'est un plus.
C'est très très court, hein, mais c'est le « Ah !» qui me gêne absolument, en fait, ce truc de « Ah oui, hein, l'important c'est quand même l'école », et en fait de surtout pas la changer.
Mais les profs, après, sont pas forcément contre l'animation, mais ils veulent juste quelque chose de qualité. Ils ont pas du tout été pris en compte pour les décisions, pour cette réforme. C'est ça aussi qui est critiqué, c'est qu'elle s'isole peut-être toute seule aussi, elle se met à dos les autres, parce qu'elle les prend pas en compte dans ses décisions.
Moi, je pense que... Enfin, je dis pas que les profs sont nos ennemis, hein, mais en tout cas, c'est quand même très, très difficile d'entrer dans l'école. Et de faire autre chose que ce que l'école propose.
Après, moi, je trouve aussi que, comme le dit Canal, c'est que moi, ça manque d'un gros temps de préparation, de concertation avec les différentes personnes qui vont intervenir, quoi. Enfin, je trouve ça carrément naze que les animateurs, que les instits et puis aussi le personnel qui s'occupe du nettoyage n'aient pas été réunis aussi pour voir un peu comment on s'organise. Parce qu'effectivement, il y allait y avoir du changement et se dire, il va y avoir du changement, comment on fait, quoi, et comment, justement, qu'on puisse se faire ensemble parce que, effectivement, les choses vont changer pour qu'on se sente un peu je peux comprendre encore un petit peu, juste que quand t'es un site et que tu vois un changement qui arrive et que tu vois du monde arriver, bon bah normalement tu dois dire bon allez c'est bon, j'ouvre les portes et tout, mais peut-être qu'après il y a des endroits où ça s'est mal passé aussi, ou on sait pas.
Ah oui, oui.
Mais en tout cas, ouais, je pense que moi, c'est ça qu'il faudrait aussi, c'est qu'il y ait un temps aussi où on puisse parler, organiser les choses ensemble, quoi. Mais c'est toujours pareil. Moi, je me demande si c'est pas voulu non plus, il y a des moments qu'on mette en place des temps comme ça, et puis finalement, ça sert encore plus à ce qu'on se tire dans les pattes et qu'on oublie totalement que, bah, au milieu de ça, il y a les gamins qui vont faire du découpage et du coloriage, quoi.
Bien.
Donc la vidéo, on peut la retrouver où ?
Sur le Facebook du PL Guérin.
On va peut-être mettre le lien sur notre page.
Ouais, okay. Tout à fait. Ça dure une heure, ça gueule de partout. Oui, j'ai cru que tu avais. Non.
Ouais, non, mais. Non, mais juste, peut-être, je vais dire une bêtise,
vas-y.
Vous allez me corriger. En fait, il va être abandonné, hein, ce projet,
oui.
C'est ça.
Oui, ouais. Donc on ne sait pas ce qu'ils vont proposer. Je crois qu'ils vont faire une consultation, en fait. Et il y a les conseils d'école, justement, du mois de mars, là, qui sont en cours. Et il va falloir se positionner sur... retour à la semaine de 4 jours. Ouais. Garder comme l'année dernière, reprendre ce schéma-là là, qu'ils proposaient... Voilà, il y aura plusieurs scénarios de proposer. Sachant que la ville de Brest a toujours affirmé qu'ils étaient pour la semaine de 5 jours, parce que pour le rythme de l'enfant, c'est mieux.
Ouais, bah bon, après, ça, c'est des questions idéologiques, politiques, en fait. Ouais. Après, il y a eu un moment où on disait, là, oui, les 5 jours, c'est le meilleur rythme. Après, on dit 4 jours, c'est le meilleur rythme. Bon, bref, ça dépend de ce qu'on y fait, en fait, après. Comment tout ça est réfléchi et animé. Mais juste, si c'était passé, là, concrètement, ça faisait arrêter l'école à 16h15,
ouais.
Lundi, mardi, mercredi, au lieu de 16h30, aujourd'hui, un quart d'heure.
Ouais.
Et ça le faisait arrêter vendredi à 16h, hein, au ouais. lieu de 16h30. Waouh, la réforme de fond, quoi. Hein. Un quart d'heure, une demi-heure... Mais en fait, concrètement aussi, ça voulait dire qu'il y avait un ajout de temps d'accueil après.
Temps de garderie. Oui.
De temps de garderie qui sont payants.
Oui.
Donc l'argument, nous faisons une réforme pour le rythme de l'enfant, pour favoriser l'apprentissage. Pipo, quoi. Concrètement, on est en train de détruire les services publics, les services d'éducation, etc. Et là, qui c'est qui paye derrière, c'est quand même... voilà. Vous voyez ce que je veux dire,
ouais,
je me trompe
ouais,
ou...
Si. Bah, après, ils le disent pas. Alors, est-ce qu'ils comptent... Enfin, je sais pas. Mais effectivement, oui, ouais, normalement, logiquement, là, quand même, un bon paquet d'élèves vont à la garderie, de toute façon, après à 4h30.
Ouais.
Donc là, ils iront plus tôt. Donc il y aura un quart d'heure de plus à payer...
Il y a des gens qui ont les moyens, il y a des gens qui n'ont pas les moyens.
Ouais. Après, sur là-dessus, quand même, la ville de Brest, mine de rien, est une des villes qui pratique des tarifs assez bas. La cantine, par exemple, est gratuite pour les enfants du quotient familial le plus bas. Et la garderie est, je ne sais pas à quel tarif, mais bien bas aussi.
On peut juste rappeler, demain, du coup, il y a un appel à la grève contre la réforme Blanquer.
Ouais.
Et je crois que c'est rendez-vous à la à Liberté, à 11h. Je ne suis plus sûr.
Ouais.
Mais bon, soit c'est un rendez-vous à la fac, soit c'est un rendez-vous à la place de la Liberté, à 11h.
Ok. Alors... La semaine dernière, j'avais commencé à parler de racisme. On va continuer dans la deuxième partie. Charline qui préparait des trucs aussi. Et du coup, en fait, quand même, on a parlé rapidement de... On avait entendu Assa Traoré parler de la mort de son frère. Donc là, juste avant de partir dans cette deuxième partie, quand même, il y a une expertise qui a été... faite à nouveau sur la mort d'Adama Traoré et qui va permettre, en fait, qui démontre clairement que les gendarmes sont mis en cause dans la mort d'Adama Traoré. Et donc, on attend le procès maintenant avec ces nouveaux éléments. Et du coup, je voulais quand même profiter pour... j'avais un petit bout où on entendait justement ce qu'avait dit... on entend un extrait d'un journal télévisé très peu de temps après la mort d'Adama Traoré. Et on va entendre le discours qu'ils avaient à l'époque et Assa Traoré commenter... voilà, c'est l'occasion. Ah non. Je vais y arriver. Oui.
Dans l'actualité également, une marche de soutien à la famille d'Adama Traoré, mort il y a 11 jours lors de son interpellation. Plusieurs centaines de personnes s'étaient déjà rassemblées à Paris quand cette manifestation a finalement été empêchée pour des raisons de sécurité. La famille d'Adama Traoré s'est vue opposer le refus de la justice d'ordonner une troisième autopsie. Les deux qui ont été réalisés sur le corps de ce jeune homme de 24 ans arrivaient aux mêmes conclusions. Sa mort n'était pas due à des violences policières, mais ses proches continuent à en douter.
Dès le premier jour de la mort de mon frère, donc sur Beaumont, nous avons pu avoir plusieurs médias, en les comptant par dizaines et même parfois par vingtaines, qui sont là. Sauf que ce 19 juillet, c'est mon frère qui est mort dans les locaux de la gendarmerie. Il s'appelle Adama Traoré, mais les médias n'en parle comme un jeune homme et met en avant ses quelques voitures brûlées et la tristesse, il ne parle pas de la tristesse et de la peine de notre famille. Dans un second temps, Adama ne s'appelle plus Adama, mais s'appelle Adamo ou Adami, où son nom est écorché ou dit sur les bouts des lèvres. Et dans un troisième temps, Adama est criminalisé. Et il ne faut pas oublier que dans toutes ces histoires de crimes policiers ou de gendarmerie, ce sont les victimes. Et on ne parle pas des coupables. Et les coupables, ce 19 juillet, sont les gendarmes. On criminalise, ces médias vont criminaliser notre affaire, vont criminaliser notre famille. Donc tout de suite, un combat contre les médias, un rapport de force se fait. Donc on se bat, on se lève, on va marcher dans les rues pour montrer justice et vérité et montrer notre force et montrer aux médias que la vérité, elle n'est pas sur ces papiers, sur ces journaux.
Donc voilà, ça y est, la vérité semble être rétablie. J'espère que le procès va bien se passer.
Ouais, alors moi j'en profite pour raconter, hier on est allé écouter Samir Eliès qui était invité dans un centre social à Plourin-les-Morlaix, qui organise là des rencontres, des débats, etc. autour du thème de discrimination. Samir Eliès, du coup, il a fait partie du MIB, Mouvement Immigration et Banlieue, et il est un soutien du comité Adama aujourd'hui. C'est quelqu'un qui vient de Seine-et-Marne, de Damary-l'Hélice, un quartier de Damary-l'Hélice qui a connu, bah, comme tous les quartiers populaires, en fait, qui connaît depuis, on va dire, pour simplifier, la fin de la colonisation, bah, qui connaît en fait une espèce de néocolonialisme quotidien avec violence policière, voilà quoi, une espèce de politique d'État raciste. Voilà. Samir Eliès, c'était une rencontre très 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 intéressante. Franchement, cette semaine-là, ces deux semaines qui font le centre social de Plourin-les-Morlaix, c'est formidable. Et il est revenu un petit peu le sujet, c'était vraiment son engagement, etc. Il a parlé de la mort d'Adama Traoré et il a dit les policiers français, la BAC et la gendarmerie ont une technique de maîtrise des individus qui est la clé d'étranglement, qui est interdit aux États-Unis. Hein. Bon, les États-Unis ne sont pas un exemple, mais c'est interdit aux États-Unis, c'est interdit... En Angleterre, c'est interdit dans plein de pays. C'est autorisé en France. C'est un permis de tuer. Permis légal de tuer. C'est comme ça qu'on parle Samir Eliès. Je pense qu'on ne peut être que d'accord avec ça. La preuve en est. Il y a des centaines de morts en 20 ans de jeunes issus des quartiers. Ils sont assassinés. Aucun flic n'a été jugé. Jamais. Ça veut bien dire qu'il y a un permis légal de tuer.
Bon, bah écoute, c'est pas mal pour... on va enchaîner sur une chanson de Kerry James que tu voulais écouter, Charline.
Oui, absolument.
Elle s'appelle Amal. Ça t'a fait penser, en fait, la semaine dernière, parce qu'on a parlé de Amal Bentounsi, la sœur d'Amin qui a été tuée par balle.
Oui, absolument.
Donc du coup on va l'écouter et puis on revient pour la suite s'informer autrement sur le racisme. Et sachez aussi qu'en dernière partie nous aurons Lucie qui va arriver pour nous parler de 23 mars prochain, une rencontre nomade à l'avenir. On en saura plus tout à l'heure. Donc on écoute Kerry James, Amal.
Elle a grandi dans la Hesse. À 2 ans, elle immigre du Maroc à la Thèse. Elle atterrit dans le 7-7, cité de la pierre collinée. Le ghetto français, c'est pas la jet set. Papa étage en nettoyage, maman femme de ménage. Amel devient adulte avant l'âge. C'est une femme dans un corps d'enfant. Quand on est pauvre, on n'est pas naïf longtemps. Seule, entourée de 4 frères. Dans la misère, ça forge le caractère. C'est les années 80, l'époque est paro. Un de ses grands frères tombe dans les héros. Je te parle d'une vraie meuf de Tessie, qui a plus de vécu que des rappeurs qui s'inventent des vies. Elle sera jamais du genre à se laisser marcher dessus. Amel a tellement pris de coups qu'elle ne les sent plus. Amel a tellement pris de coups. Amel a un petit frère qui s'appelle Amine. On n'échappe jamais à ce que Dieu nous destine. Amine est fougueux, Amine n'a pas froid aux yeux. Pur produit de la banlieue, Amine joue avec le feu. Incarcéré à 13 piges, le juge l'assassine. Plus jeune détenu de France, son avenir se dessine. Amel a beau écrire au tribunal, rien n'y fera. On passe pas tous entre les gouttes comme Alexandre Benalla. Son incarcération sera destructrice. Amine vit cet emprisonnement comme une injustice. Amine vomit le système, Amine à la rage. Amine finit dans les braquages. En tout, 17 années de placard. Amel enchaîne les courriers et les parloirs. Les gens t'oublient quand on t'incarcère. Amel ne lâchera jamais son petit frère. À 29 ans, Amine est en cavale. Il cherche à échapper à un contrôle banal. Il prend la fuite, mais le flic ne lui fait pas de cadeau. Sans sommation, balle dans le dos. Puisqu'ils ont tué son petit frère, contre le système, Amel part en guerre. Le flic prétend la légitime défense, n'exprime aucun regret, fait même preuve d'arrogance. Les médias répandent la version policière. En France, personne ne pleure sur le sort d'un gangster. Ses parents vivent dans la peur, mais Amel ne lâche rien. Et elle finit par trouver des témoins. Malgré les faits et les preuves amassées, le flic est acquitté au premier procès. Choquant, même le procureur fait appel. Une balle dans le dos, ça ne peut être accidentel. Amel poursuit la bataille. Elle puise son courage au plus profond de ses entrailles. Elle s'oublie elle-même, met sa vie de côté. Elle a un mari qui l'aime, la soutient dans l'adversité. Parfois Amel a des idées noires. Un désir de vengeance, il monte son désespoir. Devant l'incompréhension, des fois elle pense au pire. Œil pour œil, dent pour dent, tu vois ce que je veux dire. Alors qu'elle risque de prendre un mauvais tournant, Dieu lui accorde un troisième enfant. Un petit garçon, beau, Hanin. Il lui ressemble tellement qu'elle l'appelle Amine.
haine, l'amour reprend le dessus. À force de résistance, elle trouve enfin une issue. Après 5 ans de lutte acharnée, le flic est enfin condamné. Amel respire, Amel retrouve le goût de vivre, Amel désire. Amel a des projets, Amel sourit, Amel a le cœur qui bat, Amel fleurit. Plus de place pour les incertitudes, Amel reprend les études. À 40 ans sur les bancs de la fac, Amel veut devenir avocate. Elle pense aux autres, ouais. Elle n'oublie pas Amine, alors elle pense aux nôtres, ouais. J'écris son histoire pour ne pas oublier ce qu'on peut faire avec de la volonté. T'as vu, nos sœurs sont belles, immenses, et le courage qu'elles portent en elles. 10 ans après, fallait que je le répète, on n'est pas condamné à l'échec.